Le journal avec vous, Stanislas Vazak, bonsoir.
Bonsoir. Gérard Collomb en partance pour Lyon. Le ministre de l'Intérieur a répété aujourd'hui qu'il voulait démissionner malgré le refus d'Emmanuel Macron. Son remplacement est désormais à l'étude à l'Élysée et pourrait intervenir dans les prochaines heures. Nous ferons le point avec Stéphane Robert. Une association chiite de Grande Sainte dans le Nord visée par une opération antiterroriste ce matin. Le centre Zahra France est soupçonné de cautionner le djihad. Les explications de Cécile de Kervas-Doué. Petite révolution politique au Québec, un parti nationaliste, la CAQ, remporte les législatives dans la province canadienne francophone. Son leader François Legault veut réduire l'immigration et remettre en cause le dogme multiculturaliste canadien. Invité de ce journal, le sociologue québécois Mathieu Bock-Côté. Il y a 50 ans, l'armée mexicaine tuait plus de 300 étudiants à Mexico, 10 jours avant les Jeux Olympiques, un massacre resté impuni. Le reportage d'Emmanuel Stills à la fin de cette édition. Gérard Collomb n'en démord pas. Il veut quitter le gouvernement au plus vite pour se consacrer à sa candidature à la mairie de Lyon en 2020. Dans un geste de défi au président de la République, le ministre de l'Intérieur a maintenu aujourd'hui sa démission dans un entretien au Figaro. Démission qu'Emmanuel Macron avait pourtant refusée hier. Face à la détermination de Gérard Collomb, l'Élysée a finalement reconnu ce soir préparer son remplacement place Beauvau. Les explications de Stéphane Robert.
À deux reprises, Gérard Collomb a posé sa démission sur la table. La première fois, Emmanuel Macron a refusé. La deuxième, ce n'était plus tenable. On ne peut pas retenir un membre du gouvernement qui ne veut plus assumer ses responsabilités. Le président de la République a donc entériné le départ de son ministre en déclarant attendre rapidement les propositions du Premier ministre pour le remplacer. Il y a plusieurs raisons à ce départ précipité. La première, c'est que la situation de Gérard Collomb à Lyon, dans la perspective des municipales en 2020, serait assez inconfortable. Des sondages internes semblent montrer qu'il pourrait être sérieusement mis en difficulté. Il serait donc urgent pour lui de prendre ses distances avec Emmanuel Macron et avec le gouvernement afin d'aller remettre de l'ordre à la maison. Et puis, on sait qu'il est en froid avec le chef de l'État depuis l'affaire Benalla. Collomb n'a pas supporté d'être obligé de s'expliquer, de se justifier pour une affaire qui, selon lui, était entièrement du ressort de l'Élysée. Le problème est qu'en partant, Gérard Collomb met en difficulté le président de la République. Déjà parce que cette séquence montre qu'Emmanuel Macron n'est plus le maître des horloges qu'il prétendait être. Encore une fois, comme avec la démission de Nicolas Hulot, il subit, il n'a plus prise sur le cours des événements. Ensuite, parce que c'est quand même un deuxième poids lourd du gouvernement qui fait défection en quelques semaines. Et enfin, parce qu'il faut trouver un remplaçant, que ce n'est pas facile, le poste est stratégique, et il faut quelqu'un en qui le président peut avoir toute confiance.
Stéphane Robert, merci. Et l'actuel maire de Lyon, Georges Képénékian, annonce ce soir au Figaro qu'il va démissionner pour laisser son fauteuil à Gérard Collomb. Gérard Collomb qui fait toujours partie du conseil municipal lyonnais. Et puis cet autre signe du malaise qui règne aujourd'hui au sein de la majorité En Marche. À l'Assemblée, deux députés Les Républicains, Annie Genevard et Marc Le Fur, ont été élus ce soir à la surprise générale vice-président de l'Assemblée nationale. Une vaste opération antiterroriste a visé ce matin une association musulmane chiite de Grande Sainte près de Dunkerque. Sur les trois personnes interpellées, seul le trésorier du centre Zahra France reste ce soir en garde à vue. Il sera présenté demain à un juge. Le centre Zahra France héberge plusieurs structures comme le parti antisioniste, la Fédération chiite de France ou bien France Marianne Télé. Des structures soupçonnées de légitimer le djihad en soutenant des mouvements islamistes comme le Hamas palestinien ou le Hezbollah libanais. Le profil du fondateur du centre Zahra France est plutôt inquiétant, comme nous l'explique Cécile de Kervas-Doué.
Yahya Gwami n'est pas un inconnu à Grande Sainte. Homme politique et religieux du Nord, cet ancien boucher halal d'origine algérienne est connu pour ses prises de position radicales. Et le centre Zahra est d'ailleurs la plateforme de diffusion de ses idées. Ouvert en 2005 pour faire connaître officiellement le message du prophète, dit son site internet, ce centre de 5000 m² abrite surtout le parti antisioniste créé en 2009 par le même Yahya Gwami. Ce parti, qui avait présenté deux fois une liste aux élections européennes, a rassemblé jusqu'à 2014 Yahya Gwami aux côtés des polémistes Dieudonné et Alain Soral. Le centre Zahra devient alors une plateforme connue pour ses dérapages, comme par exemple lorsqu'il attribue la responsabilité des attentats de Charlie Hebdo au sionisme. Il est aussi lié à l'extrême droite identitaire et négationniste. Mais l'autre caractéristique de ce centre, ce sont ses liens avec l'Iran, puisque Yahya Gwami y a aussi fondé la Fédération chiite de France. Un lien presque naturel lorsqu'on regarde son passé. Converti à l'islam chiite dans les années 70, il entre en contact avec l'imam Khomeini. Ses liens avec l'Iran sont toujours actifs des années plus tard, puisque c'est Yahya Gwami, encore lui, qui va mettre en contact Dieudonné et la République islamique pour le financement controversé de ses activités. Et le site du centre Zahra continue encore de faire l'apologie de l'Iran. Nul doute que les ordinateurs saisis ce matin par les services de police permettront d'y voir plus clair.
Cécile de Kervas-Doué, merci. Et effectivement, cette opération de grande sainte s'inscrit dans un contexte de tension croissante entre la France et l'Iran. Paris a annoncé aujourd'hui avoir gelé des avoirs iraniens en France. Une procédure qui vise notamment un diplomate et une entité du ministère iranien du renseignement. Les autorités françaises les soupçonnent d'être impliqués dans une tentative d'attentat contre un rassemblement des Moudjahidines du peuple à Villepinte, près de Paris. Ces opposants iraniens installés en France combattent le régime islamique de Téhéran. La vague populiste qui traverse les sociétés occidentales a-t-elle atteint le Québec? En tout cas, c'est un parti qualifié de nationaliste qui a remporté hier les élections législatives dans la belle province. La CAQ, la Coalition Avenir Québec, dispose de la majorité absolue au Parlement québécois. Une défaite majeure pour les libéraux du Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais aussi pour les indépendantistes du Parti québécois. À Québec, Pascal Gricola.
En fait, c'est un véritable renversement de tendance auquel on a assisté hier soir. Traditionnellement, le Parti libéral et le Parti québécois s'affrontent depuis 40 ans, se ravissant le pouvoir au gré des élections. Sauf que depuis l'échec du référendum de 1995 sur l'indépendance, le Parti québécois ne cesse de décliner. Jamais le parti fondé par René Lévesque n'a rassemblé si peu d'électeurs depuis 1973. Il faut dire que pour la première fois depuis des décennies, cette élection ne portait pas sur la souveraineté. Privé de cet épouvantail, le Parti libéral au pouvoir depuis 15 ans s'est lui aussi effondré. Il garde le pouvoir dans ses bastions de toujours, les circonscriptions de Montréal où votent surtout les anglophones ou les immigrants. Manifestement, cette élection traduit donc la soif de changement des Québécois qui se sont tournés vers des nouveaux venus. Québec solidaire, par exemple, un parti de gauche longtemps considéré comme rêveur. Et surtout, surtout, la coalition Avenir Québec, fondée il y a seulement 7 ans.
Pascal Gricola, merci. Alors, le nouvel homme fort du Québec s'appelle François Legault. Le chef de la CAQ sera le prochain Premier ministre québécois. C'est un homme d'affaires multimillionnaire qui connaît aujourd'hui la réussite en politique en prônant une réduction de l'immigration. Un itinéraire qui rappelle bien sûr celui de Donald Trump. Invité de ce journal, le politologue québécois Mathieu Bock-Côté. Bonsoir.
Bonsoir.
Mathieu Bock-Côté, dans quelle mesure peut-on comparer François Legault à Donald Trump?
Oh, d'aucune manière, bien franchement, d'aucune manière. C'est-à-dire, Donald Trump s'est fait élire sur un programme de contestation populiste, pourrait-on dire, une remise en question radicale des élites, avec un style très transgressif, avec des outrances verbales à répétition, alors que François Legault a un tout autre parcours politique. C'est-à-dire, oui, c'est un homme d'affaires, un entrepreneur qui a fait fortune, comptable de formation, mais cela dit, il est entré en politique autour de la fin des années 90 comme ministre de un gouvernement du Parti québécois, qui est un parti de centre-gauche globalement, souverainiste mais au sens québécois, c'est-à-dire pour l'indépendance du Québec simplement. C'est un homme qui a eu un parcours ensuite où il en est venu à croire que l'indépendance du Québec ne se réaliserait pas. Donc, il a cherché à définir une position de repli, une forme de nationalisme tranquille dans la Fédération canadienne. Et s'il a abordé la question de l'identité ou de l'immigration, il l'a fait dans des termes beaucoup plus modérés, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'un Donald Trump. C'est-à-dire, François Legault, par exemple, propose de ramener les seuils d'immigration au Québec qui sont très élevés comparativement aux autres pays occidentaux. On a autour de 50 000 par année. Il propose de les ramener à 40 000 par année avec des politiques d'intégration un peu plus fortes. Mais cela dit, François Legault se comparait bien davantage à ce qu'on pourrait appeler un homme politique de centre-droit européen que de Donald Trump. Disons-le autrement, il est plus proche de Valérie Pécresse que de Donald Trump.
Donc en fait, lorsqu'il met l'immigration au centre de son programme, c'est une critique relativement modérée de l'immigration au Québec.
Oui, oui, sans le moindre doute. C'est-à-dire que le débat public québécois, pendant longtemps, a été un débat où il y avait une forme de consensus officiel, appelons ça, d'une partie importante des élites, autour d'une immigration assez assez massive quand même. Alors, depuis une dizaine d'années au Québec, il y a eu une remise en question, à la fois d'un côté du multiculturalisme canadien, donc ce qui est une politique d'État au Canada, et aussi une remise en question des seuils d'immigration. Mais la remise en question demeure très modérée, ce qui ne veut pas dire que la campagne de Legault n'était pas pleine de maladresse. Manifestement, c'est un enjeu qu'il maîtrise plus ou moins bien, étrangement, même si c'est un enjeu qui lui a permis de gagner, parce qu'en remettant en question justement les seuils d'immigration actuels, en affirmant surtout, et ça c'était l'essentiel, que l'intégration fonctionne mal, l'intégration linguistique, surtout à Montréal, l'avenir du français à Montréal et tout ça, là, François Legault a gagné des points, mais ça demeure une remise en question qui est à l'intérieur, on pourrait dire à l'européenne, d'une politique plutôt centriste.
C'est une critique du multiculturalisme tel que le défend le Premier ministre Justin Trudeau?
Oui, tel qu'il est inscrit dans la Constitution canadienne de 1982. C'est-à-dire, pour Justin Trudeau, au Canada, il n'y a pas de peuple fondateur. Le peuple québécois, la nation québécoise, le peuple québécois n'est qu'une communauté ethnique parmi d'autres dans un pays où on dit nous sommes tous des immigrants. Bon, François Legault, lui, est plutôt, mais ça c'est le propre du point de vue québécois, qu'on soit indépendantiste ou non, il y a cette idée que les Québécois sont un peuple, une nation, qu'ils ne sont pas qu'un groupe parmi d'autres, et qu'ils sont en droit aussi de définir leur propre politique d'intégration culturelle, linguistique, surtout dans la situation très particulière du Québec en Amérique du Nord. Donc, pour le Canada anglais, et plus largement pour le Canada officiel, on pourrait dire que toute affirmation nationale québécoise est pensée comme une forme de suprémacisme ethnique, alors que d'un point de vue québécois, rien n'est plus naturel que de dire simplement « nous sommes un peuple, nous sommes une nation, donc on va chercher à intégrer les nouveaux arrivants chez nous avec les moyens qui sont ceux de l'État du Québec ». Un État incomplet, provincial, mais qui n'est pas sans pouvoir néanmoins. Donc ça, c'est le vieux conflit Canada-Québec qui ressurgit autour de la question du multiculturalisme.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, François Legault a été indépendantiste, il ne l'est plus, il défend l'appartenance du Québec au Canada. Pourquoi ce revirement, finalement?
En fait, c'est moi qui le défends, qui l'accepte. C'est très différent. C'est-à-dire, il y a, François Legault, il fait partie de cette génération pour qui, lorsque la question centrale qui était au cœur du débat public, c'est la question de l'indépendance. C'est-à-dire, quand vous entriez dans la vie publique, c'était cette question-là qui était au cœur du débat. Par ailleurs, c'était une époque qui était marquée par le mouvement national québécois, par un désir d'indépendance, de souveraineté, ou du moins de reconnaissance de la différence du Québec dans le Canada. Et François Legault est arrivé à un moment dans la politique québécoise où on avait de bonnes raisons de croire que l'indépendance pouvait se faire à un horizon relativement rapproché. Donc on se disait, bon, mais c'était ses convictions, il croyait que c'était possible, et comme beaucoup de Québécois, François Legault en est venu à se dire que l'indépendance, aussi souhaitable puisse-t-elle être, a peu de chances de se réaliser pour différentes raisons. Globalement, parce que les Québécois ont voté non à deux reprises, parce que d'une défaite à l'autre, on pourrait dire que les ressorts du mouvement indépendantiste ont tendance à se défaire, à se disloquer, à se fendre. Donc, quand on a cette espèce de sentiment, il s'est dit, ben, il faut une position de repli. Alors, ceux qui sont indépendantistes disent, ben, un instant, c'est pas parce qu'on traverse des années difficiles qu'il faut renoncer à ce combat. François Legault, lui, s'est moins enthousiasmé pour le Canada qu'il s'est résigné au Canada. Disons ça comme ça. Donc, la CAQ est un parti nationaliste, mais la Coalition Avenir Québec. Mais il faut bien s'entendre, le mot nationaliste ne veut pas dire la même chose au Québec et en France. En France, c'est un mot qui est connoté à l'extrême droite, alors qu'au Québec, le mot nationaliste veut simplement dire être partisan du Québec d'abord, ensuite on peut être souverainiste ou fédéraliste, mais c'est le Québec d'abord, donc c'est l'appartenance au peuple québécois qui est placée au cœur de l'engagement politique.
Mathieu Bock-Côté, sociologue québécois, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le Mexique commémore aujourd'hui le 50e anniversaire du massacre de la place de Tlatelolco à Mexico. Plus de 300 étudiants avaient trouvé la mort dans une répression féroce de leur mouvement entamé à l'été 1968. Les étudiants dénonçaient l'autoritarisme du président mexicain de l'époque, Gustavo Diaz. Le 2 octobre 68, l'armée avait tiré sur les manifestants 10 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Mexico. Un massacre resté largement impuni, malgré plusieurs tentatives pour rendre justice aux victimes. Le reportage à Mexico d'Emmanuel Stills.
Félix Hernández Gamundi était l'un des leaders du mouvement étudiant qui s'adressait à la foule le 2 octobre 68 sur la place de Tlatelolco. Aux manifestations pacifiques qui avaient duré plusieurs semaines devait succéder la brutale répression d'un gouvernement incapable de dialoguer, selon lui.
Le gouvernement était inquiet à l'approche des Jeux Olympiques. Il fallait briser définitivement les mobilisations. Et en plus de cela, il voulait lancer un avertissement, montrer que rien n'était permis, que personne ne pouvait sortir du rang. C'est le message envoyé par le gouvernement le 2 octobre.
Et c'est le message.
50 ans plus tard, les Mexicains cherchent encore à savoir ce qui s'est passé à Tlatelolco, combien de personnes sont mortes. Entre 30 et 500, un bilan plus qu'approximatif, passé sous silence par la censure de l'époque. Elena Poniatowska, journaliste et écrivain, a dû attendre plusieurs années avant de voir publier les témoignages qu'elle avait recueillis sur le massacre.
Il n'y a eu presque rien dans les journaux. Maintenant, on en parle beaucoup. Mais pendant, par exemple, 6 ans, peut-être 4 ans, on ne pouvait pas parler de Tlatelolco. C'est pour ça que j'ai fait un livre, parce que moi, tous les articles que j'apportais, que j'emmenais au journal Novedades, on me disait « Non, s'arrête, il ne faut pas publier ça, ni rien ».
Aujourd'hui, Tlatelolco reste un crime sans coupable et la quête de justice est assumée par de nouvelles générations d'étudiants qui reprennent le message des anciens. El 2 de octubre no se olvida, le 2 octobre ne s'oublie pas.
Emmanuel Stills, correspondant au Mexique. Un mot du temps demain, gris et humide au nord de la Loire, plus ensoleillé au sud, température minimale de 5 à 16 degrés du nord-est au sud-ouest, maximale comprise entre 14 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.